שלום, אנחנו בשיעור בנושא ממשיכים את הכנס בעלייה.
Bonsoir. Bonjour. Nous allons continuer la leçon sur le thème continuer le congrès jusqu'au prochain degré et ou également continuer le congrès avec une ascension. Qu'est-ce que ça veut dire que nous continuons le congrès avec une ascension, dit Rav? Une ascension vers quoi? Tout notre travail, c'est de travailler sur un seul point, révéler le Créateur aux hommes. Et c'est ce dont nous avons besoin de clarifier. Qu'est-ce que ça veut dire de révéler? Qui est l'homme qui, à qui s'adresse cette révélation? Qui est le Créateur? Et quel récipient va-t-il révéler et sous quelles conditions? Et lorsque nous examinons toutes ces choses, comment travailler avec elles? Comment, à chaque instant, comment pouvons-nous nous soucier de la connexion avec le Créateur et s'assurer qu'elle s'intensifie? Vérifier si nous avons des déconnexions. De sorte que nous ne quittions pas pour un différent état et où nous serions vraiment déconnectés. Mais nous voulons que dans ces moments-là, notre alliance se révèle et nos bonnes habitudes qui deviennent comme une seconde nature. Et alors nous retournons à nouveau à cette même tendance qui est de révéler le Créateur et qu'il n'y a rien hormis lui et qu'il est le bon qui fait le bien. Et dans nos efforts intérieurs pour y arriver, graduellement, nous atteignons de plus en plus de récipients, nous les ressentons, nous les comprenons, nous les trouvons. Nous renforçons ce sentiment dans une telle mesure que ce sentiment se rapproche et se clarifie et devient vraiment un sentiment du Créateur dans les êtres créés. Et par la suite, il y a une révélation et c'est le Créateur qui se révèle aux êtres créés. Et ensuite, de plus en plus, nous avons des degrés d'atteinte et des degrés de dvikut. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons ce thème de continuer le congrès avec une ascension, c'est en fait notre travail. Et c'est ce qu'une personne... éveille sa première pensée, le premier sentiment qui devrait lui venir à l'esprit, c'est qu'est-ce qui se passe avec ma connexion avec le Créateur? Est-ce que je peux retourner à cette connexion ou non? Est-ce qu'elle disparaît en moi? Et s'assurer que cette connexion sera renouvelée et qu'elle ne cessera jamais. Et ensuite, lorsque les états changent, une personne doit comprendre que tous ces changements d'état, ce n'est seulement que pour lui apporter un renforcement dans sa connexion au Créateur et qu'il n'y a pas d'autre raison pour ces changements. Aussi dans la vie corporelle, Et une personne doit avoir à chaque instant une occasion de renforcer sa connexion avec qu'il n'y a rien hormis lui, qu'il est le bon qui fait le bien et qu'il contrôle et régit toutes les cellules de mon cerveau et de mon cœur. Et à côté de tout ça, il n'y a rien.
Et
c'est ça la sagesse de la Kabbale, c'est de révéler le Créateur aux êtres créés en ce monde. Et de constamment nous soucier de ça, c'est ce que nous appelons nous élever d'un degré à l'autre et d'un état à un autre. Et pour ça, j'ai besoin de l'arvut, parce que moi-même, je ne peux pas me tenir à tout ça. Le système est construit d'une telle façon qu'il a besoin d'avoir l'entière et bonne connexion qui est adaptée à mon degré. Et c'est pour ça que je dois me soucier de la bonne connexion au système général, parce qu'à l'intérieur, j'y découvre le Créateur et ma connexion avec ce système, c'est ce que nous appelons l'arvut, un contrat que j'ai signé avec les amis. Et peut-être qu'il y a un autre mot que je pourrais utiliser, une unité peut-être. Lorsque j'en viens à un tel état avec les amis, que nous sommes tous connectés ensemble comme une seule unité, et que nous décidons que nous demeurons comme ça, même si tous les états vont changer, et même à ce moment où nous en parlons, les états se mettent à changer déjà. Mais nous pouvons néanmoins avancer que si nous maintenons connectés à ce système et que nous existons à l'intérieur de celui-ci. Et c'est pourquoi ces conditions de l'arvut sont essentielles. Et hormis cela, c'est une condition qui s'appelle de déterminer les temps de la Torah, qu'il doit y avoir des moments précis, pas comme des déterminations approximatives ou quelque chose du genre, mais des délimitations qui seraient un peu faibles ou mal délimitées. Mais non, ces délimitations doivent être permanentes et une personne doit participer à ces moments de connexion avec les groupes. Et connexion avec l'étude, et étudier seulement en utilisant les sources. Seulement avec ces personnes qui sont sur le cheminement spirituel avec lui, qui ont signé une entente avec lui et qui se sont tous engagés les uns envers les autres et qui soutiennent le groupe et qui tiennent les amis, les soutiennent, et comme s'ils étaient un seul groupe. L'arvut, la loi principale qui les lie, et ce que nous signons en ce moment même demeure au-dessus de tous les changements, et nous ressentons la relation entre nous qui ne cesse pas. Demain, il y a quelque chose qui peut changer, un ami peut changer, nous comprenons que notre monde est imaginaire et que tout ça, ça révèle les failles en moi, parce que les changements sont en moi, dans mes désirs. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me maintenir d'une telle façon que même si les conditions changent, mon ego ne cesse de croître en qualité et en quantité. Et la relation que j'établis envers mon ami, une relation d'amitié et d'amour, ça, ça demeure. Et c'est pourquoi, même si mon désir croît et que les perturbations s'intensifient, je maintiens mes relations comme elles le sont et je les accepte sans aucun changement. Je dois me comporter aujourd'hui avec l'ami de la même façon que je me comportais hier. Et pendant, lorsque nous avions l'amitié et l'amour, il ne doit pas y avoir de changement dans ces éléments. C'est-à-dire que je mets des conditions devant moi et que tout va dépendre du changement de mes désirs, de mon humeur, de mes pensées. Et ma constante, c'est ma relation à l'ami. Et de cette façon, graduellement, je m'élève au-dessus de ma bête. Et je peux déjà me rapprocher de la révélation du Créateur. Il y a beaucoup de conditions ici, beaucoup de changements aussi, parce que nous sommes ainsi, nous sommes si complexes. Et spécialement en raison de cette complexité, nous pouvons localiser tous les changements qui arrivent dans la lumière supérieure et que tous ensemble, toutes ces lumières se connectent en nous. Et puis nous atteignons la forme complète du Créateur. Commençons à étudier, à moins qu'il y ait des questions auparavant, par rapport à tout ce que je viens de dire.
Il n'y en a pas, alors lisons.
Nous allons commencer avec l'extrait numéro 10. Des extraits choisis sur le thème de continuer le congrès avec une ascension. Rabash, volume 2, lettre 26. Quand l'homme marche sur le chemin du Créateur, beaucoup d'éveils d'en haut lui sont donnés, au milieu de la prière ou en étudiant la Torah ou en exécutant une mitzvah, un commandement. Cet éveil entre dans le cœur et il commence à sentir cette sensation de grâce, de sainteté. Cependant, il faut savoir qu'on ne lui a donné cette abondance que pour qu'il puisse acquérir de nouvelles forces et devenir plus fort dans son travail, qu'il ne s'engage dans la bataille de la guerre à l'inclination. Puis, à chaque fois qu'on lui donne un repos temporaire, c'est-à-dire une abondance supérieure, car quand l'éveil d'en haut vient à une personne, il lui semble qu'il n'y a plus de guerre, car à ce moment-là, il commence à ressentir la beauté et la gloire de la sainteté. Et la petitesse des matières corporelles jusqu'à ce qu'il décide de travailler seulement pour le Créateur. Mais comme une personne n'a pas vraiment fini son travail, l'éveil qui lui a été donné lui est enlevé, et il retombe bientôt dans son état antérieur où il ne ressent la grâce et la beauté que dans les choses corporelles et considère les questions de sainteté comme redondantes. À ce moment-là, il ne s'engage dans la Torah et les mitzvot que par contrainte et coercition, et non pas à cause du désir et de la joie comme lorsqu'il a eu l'éveil. Par conséquent, s'il est intelligent, il devrait toujours faire des efforts jusqu'à ce qu'il soit aidé d'en haut pour être récompensé par une vraie plénitude. Lorsqu'une personne marche sur le chemin du Créateur, on lui donne beaucoup d'éveil d'en haut, et au milieu de la prière, ou lorsque nous étudions la Torah, ou lorsque nous exécutons un commandement, et cet éveil entre dans le cœur, et il commence à sentir cette sensation de grâce et de sainteté. Cependant, il faut savoir qu'on ne lui a donné cette abondance que pour qu'il puisse acquérir de nouvelles forces et devenir plus fort dans son travail. Qu'il s'engage dans la bataille de la guerre à l'inclination, puis à chaque fois qu'on lui donne un repos temporaire, c'est-à-dire une abondance supérieure, car quand l'éveil d'en haut vient à une personne, il lui semble qu'il n'y a plus de guerre, car à ce moment-là, il commence à ressentir la beauté et la gloire de la sainteté et la petitesse des matières corporelles jusqu'à ce qu'il décide de travailler seulement pour le Créateur. C'est-à-dire qu'une personne a déjà vu qu'il s'était corrigé lui-même, mais que ce n'était pas un repos qui lui était donné ou une élévation, mais c'était véritablement son état. Mais puisqu'une personne n'a pas vraiment terminé son travail, l'éveil qui lui a été donné lui est enlevé et il retombe bientôt dans son état antérieur où il ne ressent la grâce et la beauté que dans les choses corporelles et considère les questions de sainteté comme redondantes. À ce moment-là, il ne s'engage dans la Torah et les mitzvot que par contrainte et coercition, et non pas à cause du désir et de la joie comme quand il a eu l'éveil. Par conséquent, s'il est intelligent, il devrait toujours faire des efforts jusqu'à ce qu'il soit aidé d'en haut pour être récompensé par une vraie plénitude. Ce qui veut dire, dit Rav, qu'il ne faut pas penser qu'il a reçu un éveil à partir du plus haut degré qu'il peut imaginer pour lui-même et de ne pas penser que ça vient de Gmar Tikkun et que c'est la fin du travail, mais que vraiment ce travail n'arrête jamais. Le fait qu'une personne peut dire à lui-même que « merci, j'ai la liberté, je peux faire tout ce que je veux », non, c'est l'opposé, c'est la plus grande descente lorsqu'une personne se met à réfléchir de cette façon. Parce que vraiment, s'il arrête le travail et ses efforts, il est dans une descente, vraiment pas dans une ascension. Et dans la spiritualité, notre état se vérifie suivant non pas la vitesse, mais l'accélération. Plus une personne veut accroître son rythme et avancer de plus en plus. Et c'est pour ça que si on lui donne un certain remplissage et qu'il se sent rempli et que ça le ça l'enraye d'une certaine façon. Et c'est une humiliation et il faut lui donner une occasion d'avancer parce qu'il va avoir besoin d'une grande force pour pouvoir avancer de nouveau parce qu'il a obtenu une si grande satisfaction, un si grand remplissage que c'est comme s'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'avait plus besoin de bouger. C'est comme une personne, disons, qui se remplit tellement de nourriture et de boissons que qu'est-ce qu'elle peut faire par la suite? Et encore une fois, elle a besoin de s'éveiller avec la connexion, avec l'environnement, avec les amis, et de chercher davantage d'opportunités qui lui permettront d'ajouter des efforts. Parce qu'il ne se peut pas que ce qu'une personne a à l'instant lui permette d'atteindre la grandeur du Créateur. Il faut toujours ajouter, c'est-à-dire que les obstacles, comme Rabash l'a écrit ici, les obstacles ne se trouvent pas toujours du mauvais côté. Du mauvais côté, ce n'est pas vraiment de mauvais obstacles. Si une personne tombe et elle a des problèmes et elle n'a pas la bonne humeur et tout est obscur pour elle, ce n'est pas un problème. Au contraire, elle est éveillée par un nouveau désir qui s'éveille en elle et elle est ainsi retournée au travail. Mais le fait qu'une personne se voit donner une satisfaction et qu'elle est satisfaite entièrement, que tout va bien, que tout est génial, elle a la bonne humeur et c'est comme un ballon qui s'apprête à exploser. Non, ça c'est trop parce que à partir de cet état, c'est vraiment difficile d'ajouter un effort. Et d'imaginer qu'il peut y avoir un meilleur état que celui-là. Qui sera obtenu en faisant des sacrifices pour le Créateur et pour le chemin, parce que les récipients sont pleins et que c'est difficile de les bouger vers la direction d'un nouveau manque. Et si le Créateur éveille un manque et qu'une personne tombe, c'est correct. Mais pour une personne, quand tout va bien, il faut qu'elle s'éveille d'elle-même. Et ça, c'est très difficile, très difficile. Et si une personne se vérifie, pourquoi? Parce que si on lui donne tout ce qu'il y a de mieux dans cette vie corporelle et même dans la vie spirituelle, alors il sent qu'il a la compréhension et les bonnes sensations et que tout va bien. Et à partir de cet état, vraiment, d'établir un nouveau manque, de chercher quelque chose que nous avons perdu, ça devient très difficile et ça devient un véritable problème parce que le travail doit être spécialement à partir de ces états qui nous permettent d'avancer. Si une personne travaille correctement, à chaque fois qu'elle atteint un bon état, elle doit tout de suite éveiller un nouveau manque et l'élever à un degré encore plus élevé et plus exalté. Et à chaque degré, découvrir une nouvelle carence et toujours une plus grande carence dans le degré qui est à venir. Et ma question maintenant est c'est qu'il y a deux états pour avancer dans le travail. Un qui vient d'en bas et un qui vient d'en haut. Et comment se produisent-ils en nous? Comment surviennent-ils? Et comment pouvons-nous travailler avec ces deux étapes afin d'avancer? Et vers quoi au juste avançons-nous? Dans un état où nous nous sentons bien, que nous recherchons tout de même une carence et que nous la trouvons afin d'avancer vers la révélation du Créateur, qu'il n'y a rien hormis lui et qu'il est le bon qui fait le bien. Et que cette gloire, sa gloire, remplit toute la création. Comment pouvons-nous, dans cet état où tous nos récipients sont remplis, dans notre esprit et notre cœur, nous sentons... nous sentons désaltérés et repus. Comment pouvons-nous continuer à chercher et renouveler l'état d'il n'y a rien hormis lui et qu'il est le bon qui fait le bien? Afin de le faire, il nous faut trouver un nouveau manque. Et ce manque peut être trouvé en nous ou venir du Créateur. Comment trouver ce manque? Quelle est la différence si nous trouvons le manque en nous ou si nous le ressentons supposément dans le Créateur? Il faut que je prenne tout ça et que je transfère cette attitude vers l'extérieur. Nous en avons parlé hier, dit Rav, que la chose principale dans notre vie, c'est le manque, que nous devons nous réjouir du manque et du désir, un désir ardent. Et c'est de ça dont nous réjouissons. L'amour, nous ne disons pas que nous nous réjouissons de l'amour, mais j'aime me languir d'amour, de désirer l'amour, désirer recevoir de l'amour d'une personne que j'aime. Et je dois rechercher des saveurs dans ces goûts parce que c'est comme ça que la spiritualité se vérifie, suivant les carences. Pas de carences, pas de satisfaction, pas de sensation et pas de remplissage. Nous en avons parlé hier. Pourquoi toute cette création a été faite ainsi, qu'il faut nous couvrir les manques et mettre une restriction, un massa, et y avoir la lumière réfléchie qui vient au-dessus, parce que si nous le construisions différemment, tout comme dans la corporalité, alors le remplissage entre dans le manque et le manque disparaît, et alors la sensation disparaît aussi. Et de cette façon, nous détruisons le manque et le remplissage. Ils s'effacent et se neutralisent les uns l'un et l'autre. Et c'est pour ça que pour que nous ayons la sensation de remplissage, un remplissage infini et éternel, il nous faut être dans une carence continue et éternelle. Et comment y arriver? La restriction, le massa, la lumière réfléchie, et nous isolons le manque à partir du remplissage, et le remplissage n'entre jamais vraiment dans le manque. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment comprendre ou digérer encore. Il nous faut les récipients. Et c'est une psychologie très unique. Cette écoute, la connexion au Créateur se trouve au-dessus de ce manque vide. Et le manque que nous créons, c'est un manque pour l'amour, pas pour un remplissage où nos récipients sont des récipients naturels. Et alors, ce manque pour l'amour, c'est ça que nous remplissons avec la lumière réfléchie. Et c'est là où nous découvrons le Créateur, au-dessus du Massar.
Tof.
Continuons. Quoi, vous voulez poser une question avant? Ce n'est pas encore clair pour moi comment nous pouvons surmonter et nous trouver dans un état d'ascension. D'où est-ce que je trouve un manque ou lorsque je n'ai pas de manque? Non, en fait, je suis rempli. Et alors, tu n'as rien trouvé? quelqu'un a trouvé quelque chose? Dans les amis. Et tu vois, il te répond. C'est impossible quand dans un groupe nous remplissions tous les manques. Qu'est-ce que ça veut dire, le manque d'une personne et le manque d'un groupe? C'est exactement le parallèle entre un manque corporel chez l'homme et le manque spirituel dans le groupe. C'est pour ça que seulement si une personne est connectée au groupe et que nous nous éveillons constamment l'un et l'autre grâce à leur voûte et avec le pacte que nous avons signé ensemble et que nous devons nous soutenir les uns les autres, et ce manque qui est à l'extérieur de nous est toujours prêt à se renouveler. Et ça, c'est le désir spirituel. Y a-t-il d'autres questions? Disons que c'est clair. C'est-à-dire que chaque répit que nous ressentons sur le chemin, c'est le signe que nous n'avons toujours pas atteint une cessation, mais que nous demandons toujours que cette chose se renouvelle et fonctionne. Il y a un tel état où, y a-t-il un tel état où dans la dizaine, nous sommes dans une ascension et alors c'est difficile pour nous de trouver un Nisaron et que où tout, toute la dizaine se trouve dans une descente et que ça peut être difficile de trouver un manque aussi? Non, dit Rav. Il se pourrait qu'il y ait un état, mais un tel état, mais ce serait un état spécial, disons comme à Hanouka ou lorsque nous sommes au repos, que nous changeons le type de récipient. C'est comme une inversion spéciale où nous cessons d'éveiller les récipients de réception. Après avoir préparé les récipients de dons. Et ça, c'est quelque chose de spécial. Mais en fait, il faut voir que si je suis dans une dizaine, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un manque, que je dois me rapprocher toujours des amis, même d'une façon corporelle, et mon manque spirituel va se renouveler. Il y a une chose qui demeure non claire. Comment accélérer?
Ani yachol lagdil.
Je peux accroître la vitesse de mon avancement en éveillant un manque pour l'avancement sur le chemin vers le Créateur. Si l'Issaron vient du Créateur, disons, c'est quelque chose de naturel dans la spiritualité, mais si moi j'éveille l'aube, ça ce n'est pas naturel. Et supposément, ça vient de l'inférieur. Et je génère cette accélération. Je m'accélère moi-même. Et c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Mais comment une personne peut-elle créer cette connexion au manque du groupe afin d'obtenir cette direction générale qui vient du manque du groupe et non pas de son propre manque? Il n'a pas de manque pour ça. Il est avec eux d'une façon corporelle, dit Rav, et il doit s'éveiller lui-même à partir du niveau corporel. Et ça, c'est tout le bénéfice du groupe. D'un côté, c'est corporel. Nous avons ses corps, ses repas. Nous parlons relation aux autres et d'un autre côté, la relation entre les gens et à l'intérieur du groupe est spirituelle. Et dans le groupe, nous avons là quelque chose d'intéressant qui est le point de rencontre entre les deux mondes. Et le passage entre ces deux mondes, l'incorporation corporelle, et une personne peut, pour qu'elle puisse recevoir un membre du groupe, ça, tu peux l'éveiller à travers tes relations corporelles aux amis, dit Rav. Et vous prenez des repas ensemble, vous faites toutes sortes d'actions, et par là, vous pouvez éveiller vos désirs pour la spiritualité. C'est une invention divine. C'est le point de transfert d'un point à l'autre. Mais qu'est-ce qui détermine que ce clic va arriver dans notre connexion? C'est là, dit Rav. Il faut créer quelque chose, peut-être stabiliser même, mais c'est toujours là. Les lois existent. Si tu mets en place une dizaine et que tu te mets à travailler à travers elles, contre ta propre nature, contre ta nature corporelle, tu vas te connecter avec eux autant que tu peux. Et dans le monde corporel, et de plus en plus, c'est ainsi, et on accroît la connexion entre nous. Et il s'ensuit que, à travers cette connexion corporelle que nous pouvons établir, nous pouvons même essayer d'acheter les amis. C'est comme Acid qui a payé les musiciens qui lui ont donné ses derniers dollars pour jouer pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient éveillé son désir. Vous comprenez qu'à travers toutes sortes d'actions, dans ce monde imaginaire qui semble exister, vous éveillez en fait les désirs qui appartiennent au véritable monde, à la spiritualité. Et c'est pour ça que la société, c'est ça que la société nous donne. Et ce clic dans notre connexion où il y a la transition, ça dépend de quelque chose de spécifique ou c'est une combinaison de... Tu ne sais pas où se trouve ce clic, dit Rav. Tu ne peux pas le localiser. Et ça vient d'en haut. Si tu fais cela, alors ça fonctionne. Et puis, il y a une certaine connexion, et mais tu ne peux pas vraiment détecter les fils. Il y a une cause ici et un effet là-bas. Mais c'est clair pour nous, à partir de ce que les kabbalistes ont écrit, spécialement Rabash qui a écrit là-dessus, que ce degré par lequel nous éveillons notre état intérieur à travers des actions corporelles, mais ces actions dans ce monde... Il nous faut savoir comment les affecter pour que nous puissions avancer vers la spiritualité. Sinon, ces actions demeurent des commandements qui sont vides de tout contenu. Mais alors, c'est quoi cet ajout dont tu parlais? Qu'est-ce qu'on doit savoir que je le fais, dit Rav, afin d'avancer dans la spiritualité? Ce n'est pas pour rien que je m'assois avec vous et que je mange et que je chante et que je bois. Est-ce que tu penses que ce serait tout? C'est ce qu'on pourrait appeler une assemblée? Non, une assemblée à un but spirituel. Exalté, et c'est pour ça que nous le faisons, non pas pour nous entendre au niveau de ce monde. D'accord, continuons. Extrait numéro 11. Bala Sulam, Shamati 211. Comment celui qui se tient devant un roi? Celui qui est assis chez lui n'est pas comme celui qui se tient devant un roi. C'est-à-dire que la foi doit faire qu'il se sente toute la journée comme s'il se tenait devant le roi. Alors il a sûrement l'amour et la crainte complète. Et tant qu'il n'a pas atteint ce genre de foi, il ne faut pas se reposer, car c'est notre vie et la longueur de nos jours, et il ne voudra accepter aucune compensation.
צריך שיהיה נקלע בעברו עד שהרגל.
Le manque de foi doit être perçu dans ses membres jusqu'à ce que l'habitude devienne une seconde nature. Dans la mesure de quand je me souviens de lui, il ne me laisse pas dormir. Mais toutes les affaires corporelles assouvissent ce manque, car pour toutes les choses qui lui donnent du plaisir, le plaisir annule le manque et la douleur. Quel désir, demande Rav, c'est le désir de découvrir le Créateur comme le bon qui fait le bien et être en contact avec lui, d'accord, oui. Et il doit y avoir un contact constant et permanent. Il doit donc ne vouloir recevoir aucune consolation, doit être prudent avec toute chose matérielle qu'il reçoit, que ça n'annule pas son manque. Et ceci en regrettant que, par ce plaisir, les étincelles et les pouvoirs des récipients de sainteté viennent à lui manquer, c'est-à-dire le manque de sainteté. Par le chagrin, il peut éviter de perdre les récipients de sainteté. Encore une fois, Balasulam, Shamati 211, c'est l'état vers lequel une personne aspire toujours, dit Rav. C'est vers cet état que nous pouvons nous vérifier. Celui qui est assis chez lui n'est pas comme celui qui se tient devant un roi, c'est-à-dire que la foi doit faire qu'il se sente toute la journée comme s'il se tenait devant le roi. Alors il a sûrement l'amour et la crainte complète. Et tant qu'il n'a pas atteint ce genre de foi, il ne faut pas se reposer, car c'est notre vie et la longueur de nos jours, et il ne voudra accepter aucune compensation. Le manque de foi doit être perçu dans ses membres jusqu'à ce que l'habitude devienne une seconde nature. Dans la mesure de quand je me souviens de lui, il ne me laisse pas dormir. Mais toutes les affaires corporelles assouvissent ce manque, car pour toutes les choses qui lui donnent du plaisir, le plaisir annule le manque et la douleur. Il doit donc ne vouloir recevoir aucune consolation et doit être prudent avec toute chose matérielle qu'il reçoit, que ça n'annule pas son manque. Et ceci en regrettant que, par ce plaisir, les étincelles et les pouvoirs des récipients de sainteté viennent à lui manquer, c'est-à-dire le manque de sainteté. Par le chagrin, il peut éviter de perdre les récipients de sainteté. Comment est-ce que je maintiens ce chagrin, ce regret, de sorte que j'ai toujours les récipients qui me permettent d'avancer davantage vers la sensation du Créateur et la compréhension du Créateur, le détecter, avancer davantage vers lui? Comment est-ce que je préserve ces récipients pour qu'ils ne me manquent pas, je ne manque pas de ces récipients et que je ne m'enraye pas? Et que j'ai peur de perdre l'intérêt dans le désir. Chaque personne, chacun de nous manque de cela. Et comment établir ou collecter tous ces récipients de sorte que nous soyons toujours en feu? Ce manque peut venir à travers de mauvais états, des craintes, des problèmes, et il n'y a que le Créateur qui puisse me sauver. Alors je cours vers lui et je lui demande aide-moi, parce que je vois qu'il n'y a personne d'autre qui puisse me sauver. Et tout ça, ça me permet de recevoir. Mais ce n'est pas le même manque quand nous sommes dans la spiritualité, car de lui donner à lui, C'est moi qui le recherche pour me donner à moi, à moi-même. Mais comment est-ce que je peux détecter un manque pour le Créateur ici? C'est-à-dire, comment je peux lui donner à lui, le désirer pour lui donner du contentement, et non pas pour que j'en gagne quoi que ce soit. S'il vous plaît, parlez tous ensemble et essayez de trouver une réponse. Parce qu'autrement, sinon toutes nos actions vont demeurer corporelles. Alors, s'il vous plaît, trouvez une réponse. Par là, je veux que vous sentiez toutes les frontières et les limites où la corporalité se termine et là où la spiritualité commence. C'est là la frontière où je ne manque de rien sauf de l'adhésion au Créateur. Je manque de l'adhésion au Créateur et de la sensation du Créateur. Et ça, je ne manque, ce n'est pas dans mes propres récipients que je manque de ça, mais je manque de lui. Oui, c'est similaire au travail que nous devons faire ici. Nous passons maintenant à l'extrait numéro 12 de Balasulam, la lettre 18. Celui qui assume le fardeau complet du royaume des cieux ne trouve aucun travail dans l'adoration du Créateur et peut donc s'attacher au Créateur jour et nuit dans la lumière et les ténèbres. La pluie qui se crée dans les allées et venues, les changements et les échanges, ne l'arrêtera pas parce que la Keter, qui est Ein Sof, illumine tout le monde de façon égale. L'imbécile, qui marche sous un flot de mesures préventives et qui l'assaille de devant et derrière, dit à tous qu'il ne ressent pas la cessation et l'absence de Dvikut comme une corruption ou une iniquité de sa part. S'il l'avait senti, il se serait certainement efforcé de trouver une tactique pour au moins être sauvé de la cessation de Dvikut, et ce plus ou moins. Cette tactique n'a jamais échappé à quiconque la recherchait, que ce soit dans la pensée de la foi ou dans la confiance ou dans les supplications de sa prière, qui conviennent à une personne en particulier dans les endroits étroits et difficiles, même pour un voleur qui cache ses appels au Créateur. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire que Mohin de Gadlout empêche la branche de se couper de sa racine. Encore une fois, Balasulam, lettre 18. Celui qui assume le fardeau complet du royaume des cieux ne trouve aucun travail dans l'adoration du Créateur et peut donc s'attacher au Créateur jour et nuit dans la lumière et les ténèbres. La pluie qui se crée dans les allées et venues, les changements et les échanges, ne l'arrêtera pas parce que la Keter, qui est Ein Sof, illumine tout le monde de façon égale. L'imbécile, qui marche sous un flot de mesures préventives et qui l'assaille de devant et derrière, dit à tous qu'il ne ressent pas la cessation et l'absence de Dvikut, adhésion, comme une corruption ou une iniquité de sa part. S'il l'avait senti, il se serait certainement efforcé de trouver une tactique pour au moins être sauvé de la cessation de Dvikut, et ce plus ou moins. Cette tactique n'a jamais échappé à quiconque la recherchait, que ce soit dans la pensée de la foi ou dans la confiance ou dans les supplications de sa prière, qui conviennent à une personne en particulier dans les endroits étroits et difficiles, même pour un voleur qui cache ses appels au Créateur. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire que Mohin de Gadlout empêche la branche de se couper de sa racine.
אז כאן השאלה, בכל זאת, אותה השאלה בעצם.
La question qui suit sera la même. En fait, comment nous éveiller chaque fois pour que nous voulions découvrir le manque pour l'adhésion avec le Créateur toujours plus? Comment évoquer tout ça dans le groupe, en action? Le manque d'adhésion, puis l'adhésion. Qu'est-ce que ça veut dire, le manque d'adhésion et l'adhésion? L'adhésion, c'est ce dont nous manquons. Et moi, à travers le groupe où je l'atteins, et le manque que chacun doit fournir à la société, peu importe ce qui incombe à une personne de faire pour qu'une personne ait cette adhésion générale au Créateur. Et là où nous le ressentons, s'il y a une adhésion dans le groupe, dans cette mesure, le Créateur se révèle à l'intérieur du groupe. Et alors chacun comprend ce qu'ils ont découvert et chacun a une sensation collective du Créateur qui est entre nous. Alors, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous toujours nous assurer de fournir le bon manque aux membres du groupe? Est-ce que c'est clair? Alors, allez-y. Comment toujours fournir le bon manque à tous les membres du groupe? Parce que ce dont nous manquons, c'est ça. Ce dont nous manquons pour avancer, c'est d'avoir le bon manque. C'est un congrès, alors réveillez-vous. Pourquoi est-ce que nous parlons autant? Alors, c'est clair pour nous, dit Rav, que ce que nous devons faire, c'est de magnifier et d'accroître ce manque, ce désir, et s'assurer que chaque ami a un Issaron pour l'avancement spirituel. Et c'est ça, notre remplissage, c'est notre satisfaction. Si moi, je me soucie de ce manque pour l'avancement du groupe vers l'atteinte de l'objectif. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Et c'est ça ma tâche en ce qui a trait au groupe. Et ensuite, nous pouvons être certains que nous allons arriver à l'adhésion au Créateur. Et c'est là où se trouve l'arvut, le pacte. Comment nous mettons en place nos relations à partir de cette nécessité d'accroître le manque, et à partir de là, nous dérivons nos leçons, nos ateliers, nos repas, et tout ce que nous tentons de faire, ça vient de la nécessité d'accroître le manque pour l'adhésion. Alors continuons, s'il vous plaît, avec un autre extrait. Extrait numéro 13, Rabash, volume 3, l'article 24, ce qui nous manque. La principale chose qui nous fait défaut et la raison pour laquelle nous n'avons pas de carburant pour ce travail est que nous sommes dépourvus de l'importance du but, ce qui signifie que nous ne savons pas comment apprécier notre travail ni à qui nous donnons sans réserve. Par conséquent, il nous manque la conscience de la grandeur du Créateur et nous savons combien nous devrions être heureux d'avoir été récompensés en servant le roi, puisque nous n'avons rien pour comprendre sa grandeur. Encore une fois, la principale chose qui nous fait défaut et la raison pour laquelle nous n'avons pas de carburant pour ce travail est que nous sommes dépourvus de l'importance du but, ce qui signifie que nous ne savons pas comment apprécier notre travail ni à qui nous donnons sans réserve. Par conséquent, il nous manque la conscience de la grandeur du Créateur et nous savons combien nous devrions être heureux d'avoir été récompensés en servant le roi, puisque nous n'avons rien pour comprendre sa grandeur. C'est-à-dire, dit Rav, que nous allons toujours avoir ce sentiment de voir à quel point nous sommes pleins de compréhension et de sensation de l'imagination, de la grandeur du Créateur, que nous, en fait, nous ne l'avons jamais atteint, mais spécialement d'une façon qualitative. Pas quantitativement parlant, c'est peut-être davantage possible, mais en qualité, c'est que nous passons juste à côté d'un petit point, et puis dans la reconnaissance du Créateur, juste un petit point, et puis comme un pixel, et puis l'image change complètement. Et ce qui était important auparavant est grand et spécial, ça, nous le renversons et ça devient un nouveau discernement, quelque chose de complètement nouveau. Tout le travail, nous nous élevons à un nouveau degré, à un nouveau niveau en ce qui a trait à tous ces discernements. Alors, l'essentiel dont nous manquons et la raison pour laquelle nous n'avons pas le carburant pour le travail, c'est l'importance du but, c'est-à-dire que nous ne savons pas comment apprécier notre travail, ni à qui nous donnons sans réserve. Par conséquent, il nous manque la conscience de la grandeur du Créateur. Et nous savons combien nous devrions être heureux d'avoir été récompensés en servant le roi, puisque nous n'avons rien pour comprendre sa grandeur. C'est-à-dire que c'est comme si ça nous désespérait et nous n'avons aucun moyen de comprendre sa grandeur, mais en fait, nous n'en avons pas besoin. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas cette aptitude à comprendre tout ça. Et alors, notre manque peut être infini, même au plus haut degré. C'est-à-dire qu'à la fin de la correction des récipients, c'est lorsque nous avons un manque infini, et que nous nous sentons toujours vides parce que les récipients de dons ne peuvent être remplis. Ils ne peuvent être remplis. Plus nous essayons de les remplir, plus nous voyons que ces récipients s'éloignent davantage. Mais nous en sommes heureux parce que dans la sensation de manque, il y a toujours une sensation d'appréciation du Créateur. Et ça, c'est le but, essentiellement. Nous ne l'atteignons jamais. Nous atteignons la mesure de l'importance que nous avons pour lui.
אני לא יודע באיזה צורה לפרמט את השאלה.
Je ne sais pas trop comment formater la question.
ממה אנחנו נהנים בזה שמשרתים לבורא?
À partir de quoi est-ce que nous dérivons le plaisir de servir le Créateur? Quel est exactement le plaisir de le servir? Alors, de quoi dérive le plaisir de servir le Créateur et qu'est-ce que ce plaisir au juste? Est-ce que cette joie précise Rav à avoir avec nous? Ou avec le Créateur, ou avec le groupe, ou peut-être les trois ensemble, comment pouvons-nous établir une réalité de telle façon que notre joie sera le but de la création, qui est de faire le bien à